Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Gros plan dans notre émission de ce lundi sur le port de signes religieux dans les entreprises privées. La semaine dernière, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision très commentée depuis, jugeant non discriminatoire l'interdiction d'un signe religieux, philosophique ou politique, en l'espèce il s'agissait du voile islamique, sur le lieu de travail. Une forme d'élargissement du principe de neutralité, jusque-là appliqué dans les entreprises publiques, aux entreprises privées, mais à certaines conditions, que cette interdiction soit inscrite dans le règlement intérieur de l'entreprise, on va en parler pendant cette émission, et que ce soit une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Par exemple, la seule exigence d'un client n'est pas suffisante. Alors, faut-il interdire les signes religieux dans l'entreprise? Faut-il autoriser l'interdiction de ces signes religieux? C'est notre sujet du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jean Glavany, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député socialiste des Hautes-Pyrénées, vous êtes aussi membre de l'Observatoire de la laïcité. En face de vous, François Asselin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la CPME, la Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises. Vous êtes vous-même chef d'entreprise de l'entreprise qui s'appelle de votre nom, Asselin. Vous avez 130 salariés et vous êtes basé à Thouars dans les Deux-Sèvres. Alors je vais peut-être commencer avec vous, si vous le permettez. D'abord sur l'importance de cette question du port de signes religieux dans l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui c'est une question importante? Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges sur ce sujet dans le quotidien des entreprises?
Alors pour être très honnête, dans les entreprises que je connais le mieux et que je représente, à savoir les PME, c'est pas tellement un sujet. C'est-à-dire qu'on a eu très peu, vraiment très très peu, on peut les compter sur les doigts d'une main au niveau de notre réseau, et Dieu sait que nous avons des milliers d'entreprises adhérentes à la CPME, qui ont été concernés par ce problème, on va dire, de port ostentatoire d'un signe religieux, en tout cas d'une volonté de vouloir faire de l'entreprise un lieu de prosélytisme où on peut remettre en cause, je dirais, l'organisation interne et l'ambiance interne de l'entreprise. Donc, c'est pas tellement un sujet qu'on connaît dans les PME. Ceci dit, je trouve que la décision de la Cour de justice européenne redéfinit une chose importante qui est, effectivement, à travers le règlement intérieur, cet espace de liberté où le dirigeant, puisque le règlement intérieur se fait entre le dirigeant et ses représentants des salariés, où le dirigeant, avec ses salariés, peut définir, eh bien, comment s'organise, bien sûr, le travail, mais en tout cas, on va dire, l'ambiance et le savoir-vivre ensemble de l'entreprise.
Alors, on va évidemment y venir à cette notion de règlement, comment ça marche, qu'est-ce qu'on y met, est-ce que c'est la bonne méthode, mais je voudrais quand même revenir sur l'importance de la question. Donc, vous nous dites, ça n'est pas très important, ce qui est quand même intéressant au regard des chiffres. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez les contester ou que ce sont des chiffres qui ne concernent pas vos entreprises, mais peut-être les plus grandes entreprises, puisque l'Observatoire du fait religieux en entreprise indiquait en septembre 2016, il y a un peu plus de 6 mois, qu'une entreprise française sur 2 étaient concernés de manière récurrente par cette question. Alors, vous nous dites c'est très rare. Quand est-ce que ça s'est présenté? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par exemple?
L'exemple, voilà. c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, un homme a commencé à se laisser pousser la barbe un peu longuement et a commencé à changer de tenue vestimentaire. Et il y avait un problème d'incompatibilité entre le poste de travail qu'il occupait, la sécurité qui devait être au poste de travail. Donc c'était sur le point de vue sécurité que la chose s'est réglée. Il y a eu un autre phénomène où, bien sûr, des femmes en contact avec les clientèles ont commencé à venir avec le voile. Et petit à petit, avec la présence d'autres hommes dans l'entreprise, imposer à d'autres femmes d'origine musulmane le port de voile au sein de l'entreprise. Là, il a fallu qu'effectivement le chef d'entreprise, se retourne vers ces instances, c'était la CPME, pour qu'il se fasse guider. Et là, effectivement, on avait utilisé le règlement intérieur.
Donc il y avait eu un besoin là.
Il y avait eu un besoin pour qu'est-ce que je dois faire exactement, comment je peux recadrer sans me mettre entre guillemets hors la loi, sans avoir des difficultés par rapport à tout cela, effectivement, être taxé de discrimination ou autre. Et dans les deux cas que je connais, la solution a été rapidement trouvée. Alors ceci dit, c'est pas parce qu'on n'en entend pas vraiment parler que la chose n'existe pas, si vous voulez. Il se passe beaucoup de, on va dire, de règlement sans que ça ne parte, je dirais, au prud'homme ou ailleurs. Et globalement, on arrive à trouver des éléments de bon sens. Néanmoins, quand une règle devient claire et sur laquelle on peut s'appuyer, eh bien, ça peut rendre service à beaucoup de monde.
Alors, Jean Glavany, vous avez une double casquette intéressante dans l'émission de ce soir, puisque vous êtes le législateur et vous êtes aussi membre de l'Observatoire de la laïcité. Alors, comment vous regardez ?
Je ne m'exprime pas au nom de l'Observatoire de la laïcité, je m'exprime à titre personnel.
Alors, en tant que législateur, est-ce que pour vous, il y avait nécessité à légiférer, comme nous dit François Asselin ?
Non seulement il y avait nécessité, mais on l'a fait. Je vais y revenir, mais... Pour reprendre ce que dit Monsieur Asselin, d'abord, il ne faut pas dramatiser ce phénomène en disant qu'il y a des problèmes qui se posent partout avec une violence inouïe. Mais il y a des problèmes qui se posent. Il ne faut pas se masquer les yeux, il faut les regarder tranquillement, sereinement et lucidement. De ce point de vue, je partage l'approche de Monsieur Asselin. Moi, je vais prendre deux exemples que j'ai vécu comme législateur, enfin, deux exemples très différents, mais qui posent la même question. Un exemple d'une crèche dont vous avez entendu parler, qui s'appelait Babylou, dans les Yvelines, tenue par une jeune femme originaire d'Amérique du Sud, très courageuse, qui faisait avait monté une crèche, cette crèche Babylou, faite pour les personnes de quartiers populaires des Yvelines, une crèche qui travaillait 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'au fond, très adaptée à tous les boulots que font ces femmes, qui sont femmes de ménage très tôt le matin ou très tard le soir, etc. Et donc une crèche qui travaillait entre 8 et qui rendait des services considérables. Un petit incident du type de celui que M. Asselin vient de décrire, c'est-à-dire une femme qui était partie, une de ses salariés qui était partie en congé... maternité ou congé maladie, j'en sais rien, ou congé tout court, et qui revient voilée la tête aux pieds et qui s'il y avait une sorte de provocation, et donc la directrice de la crèche lui dit non, c'est pas possible. Ici, c'est un espace laïque. On reçoit des gens de toutes les confessions. On reçoit des gosses en très bas âge. C'est une sorte de service public, même si c'est pas un service public au sens juridique du terme. Et l'affaire part en conflit, c'est-à-dire part devant la justice. Et cette affaire a traîné pendant des années, pendant 4, 5, 6 ans, jusqu'à ce que la Cour de cassation, in fine, tranche en faveur d'ailleurs de la directrice de la crèche, dans le sens en disant on peut interdire. Deuxième exemple. Mais ça avait duré beaucoup trop de temps parce que justement la loi n'était pas claire et donc il avait fallu aller, il y a des tribunaux qui ont jugé d'une manière différente le sujet. Deuxième exemple, une entreprise très connue, dont je ne vais pas faire la publicité, mais de toute façon elle ne s'attaque pas au grand public, elle sert des collectivités de traitement et de collecte des déchets qui s'appelle Paprec. Avec des milliers de salariés, des dizaines de nationalités parmi les salariés, et qui décide de négocier dans le règlement intérieur de l'entreprise, avec les syndicats des salariés, une charte de la laïcité. Et cette charte, elle est adoptée par référendum d'entreprise à l'unanimité. C'est-à-dire tous les syndicats la votent et tout, et ça se passe très bien.
Donc et bien, c'est une charte, pas un règlement.
Oui, mais une charte incluse dans le règlement intérieur. Et cette charte, de fait, elle est illégale au sens où on ne permet pas à l'entreprise par PREC de restreindre les libertés religieuses. La loi ne permettait pas. Alors c'est pour ça que, avec d'autres parlementaires, notamment une sénatrice de Haute-Garonne à qui je travaille beaucoup sur ces problèmes de laïcité, nous avons voulu, dans une loi que vous connaissez très bien, parce qu'elle a défrayé la chronique pendant des mois, et elle continue d'ailleurs d'une certaine manière, la loi El Khomri,
évidemment.
du 8 août 2016, nous avons voulu... proposer une disposition qui mette fin à ces atermoiements d'un côté ou à ces illégalités de l'autre. Il ne s'agit pas d'interdire, mais il s'agit de ne pas s'interdire d'interdire.
D'autoriser l'interdiction à certaines conditions.
Voilà. Alors, il faut savoir que quand on parle des valeurs de la République, et la laïcité en est une fondamentale, il y a toujours eu des écoles extrémistes par rapport à ça. Ceux qui veulent manier l'interdit matin, midi et soir. Si vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand ils regardent une religion ou une seule, interdire le voile, interdire le voile le matin, le midi et le soir. La passion de l'interdiction. Et puis il y en a d'autres qui n'ont, au contraire, la passion de la liberté tout autorisée. Le laisser-faire, qu'on a connu, compris dans l'idéologie de 68, il est interdit d'interdire. Eh bien, la République, c'est un subtil équilibre entre les deux. Il ne s'agit pas d'interdire tout, il ne s'agit pas de permettre tout, il s'agit de permettre et parfois d'interdire. Et la République, elle doit se donner les moyens d'interdire. Et c'est ce que nous avons fait dans cet article de la loi du 8 août 2016. On a dit, le règlement intérieur peut, non pas doit, mais peut contenir des dispositions apportant restrictions de liberté religieuse. Et puis il a dit des conditions dans lesquelles on pouvait le faire. Premièrement, si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés, Bah, c'est toujours ma liberté finie là où commence celle des autres.
Oui. Donc,
toujours le conflit entre des libertés, premièrement. Deuxièmement, si c'est lié au bon fonctionnement de l'entreprise, ce que disait Monsieur Asselin d'une certaine manière, et à condition que ça soit proportionné au but recherché. Voilà l'équilibre qu'on a trouvé. Donc il s'agit de dire, oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire jamais, ça veut dire qu'il faut le faire avec raison et rationalité.
Et effectivement, l'une des lectures de cette décision qui a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que finalement, elle élargit ce qui est les dispositions de la loi El Khomri que vous venez de nous expliquer à l'ensemble de l'Union européenne. Alors, François Asselin, est-ce que pour vous, le subtil équilibre qui a été trouvé dans cette loi est promu par Jean Glavany et le bon équilibre? Est-ce qu'effectivement, utiliser cette autorisation interdite, c'est bien?
Ce que je trouve intéressant, c'est que, vous savez, dans une entreprise, vous avez quelque chose de précieux qu'on appelle la culture d'entreprise. C'est quoi la culture d'entreprise? C'est une sorte, on va dire, de tradition tacite dans laquelle se reconnaissent l'ensemble des salariés et de la direction de l'entreprise. Je vais prendre un exemple. Vous avez plein d'entreprises où on fête la galette des rois. Vous avez plein d'entreprises avec des métiers très spécifiques. Moi, j'ai une entreprise de charpente-menuiserie. Et aujourd'hui, les charpentiers se souhaitent la Saint-Joseph. Voyez, et ça dure depuis des lustres. C'est pas une question d'aller où, à l'église ou d'être croyant ou pas croyant, mais c'est des choses qui appartiennent à la culture de l'entreprise.
Donc et interdire, ce serait ridicule selon vous?
Ben ça serait ridicule parce que on perdrait une partie de notre culture et de les racines de l'entreprise. C'est pas une question d'être croyant ou pas croyant. La question n'est absolument pas là, mais ça permet. En tout cas, avec ses salariés, si jamais demain le problème se pose de quelqu'un qui, entre guillemets, attaque la culture de l'entreprise, de poser les bornes pour dire, bah, écoutez, le vivre ensemble dans cette entreprise, il est codifié de telle manière. Et s'il faut en arriver pour qu'il n'y ait aucun signe, on va dire, de quelque religion que ce soit, et de prendre, on va dire, une position entièrement laïque, comme l'a fait Paprec, eh bien, si c'est ça la solution, la loi la permet. Si on a tout simplement besoin de rééclaircir les choses et de garder ce qui est beau, la culture d'entreprise, eh bien, la loi le permet aussi. Et ce qui est beau dans cette loi, je trouve, finalement, c'est que, vous savez, les salariés de nos entreprises sont attachés à ce qu'il y ait un chef, hein, et sont attachés à ce que le chef fasse respecter, quelque part, le bien-vivre ensemble, avec, bien sûr, l'appui des représentants du personnel. Eh bien, la Cour de justice européenne permet, à travers le règlement intérieur, comme la loi El Khomri, hein, comme la loi El Khomri, permet en tout cas de se mettre d'accord avec ses représentants du personnel pour, si besoin est, redéfinir quels sont les us et coutumes au sein de l'entreprise, bien sûr, dans le respect du droit du travail.
Alors, on peut peut-être citer Jean-Claude Mailly, hein, numéro 1 de FO, qui a pris position sur ce sujet il y a quelques jours, qui a approuvé un petit peu, dans votre sens, cette possibilité de bannir à certaines conditions les signes religieux dans l'entreprise. Alors, il a donné deux explications à cette prise de position, estimant que cela pouvait éclaircir certaines situations. C'est ce que vous nous disiez éventuellement.
Voilà. Et puis, voyez-vous, il y aurait un autre piège. C'est-à-dire qu'on pourrait demain se dire, sous cause de neutralité, on va négocier tous les jours fériés. Comment organisez-vous le travail si c'est comme ça?
Alors ça, effectivement, c'est une autre question. Et juste la deuxième explication qu'il donne, c'est que l'entreprise ne devrait pas être un lieu d'expression religieuse. Alors là, ça va un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Glavany?
Oh, globalement, je n'ai pas de désaccord profond avec ces positions prises par Jean-Claude Mailly, mais en même temps, je vous dis, il faut pas globalement postuler du fait que il y aurait aucune expression religieuse dans aucune entreprise. Je pense que il y a des entreprises où porter le voile ne doit pas poser de problème. Donc c'est une expression religieuse. Il y a des entreprises où porter une croix ne pose pas de problème.
Bah, on a beaucoup opposé d'ailleurs Paprep à une entreprise de prêt-à-porter qui fonctionne très bien, suédoise, que chacun d'entre nous connaît, où effectivement vous avez des femmes voilées, vous avez des hommes qui portent un...
Mais il y a des entreprises sans cesse où il y a des femmes voilées aussi, et sans que ça pose problème. Donc faut pas en faire une fixation, je veux dire. Bon. Et puis il y a des entreprises sur ça aussi, il y a même des salariés qui portent la kippa. Bon. Donc la question est posée quand il y a des tensions qui sont liées à des sujets, quand il y a des difficultés, quand il y a des provocations, quand il y a du prosélytisme. Et là, le chef d'entreprise ou d'ailleurs des syndicalistes, parce que c'est la communauté de travail. Alors ça impose de définir une conception, je veux dire, plus moderne de l'entreprise, qui est pas seulement un rapport hiérarchique entre un patron et des salariés, mais comme le disait Monsieur Asselin à l'instant, une communauté de travail où des gens se retrouvent tous les jours pour développer une culture d'entreprise et un projet commun. Dans cette communauté de travail, s'il y a des différences qui s'expriment, il faut aussi des règles pour permettre la coexistence de ces différences. Et quand il y a des tensions, et il faut que ces règles se traduisent éventuellement par des interdits. C'est ça qu'il ne faut pas, je le répète, faut pas s'interdire d'interdire, surtout quand il y a des provocations, du prosélytisme et parce que nous savons qu'il y a des religions qui font de la provocation, qui sont en train de provoquer les sociétés françaises.
Et rappelons qu'on parle aussi de signes philosophiques et politiques, hein. D'ailleurs, il ne s'agit pas que de signes religieux. Je vais me faire un petit peu l'avocat du table, puisque finalement vous êtes un peu sur la même ligne. Je voulais vous parler d'un éditorial tranché qui a été un éditorial signé dans le New York Times, le journal de référence américain, qui a exprimé tout le mal qu'il pensait de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui intervient, selon le New York Times, dans un contexte, je cite, marqué par le développement du sentiment anti-musulman en Europe, à l'approche d'élections que la droite populiste aborde en bonne position. Cette décision n'adresse-t-elle pas un mauvais message, s'interroge le New York Times, offrant une victoire anticipée aux droites nationalistes. Alors François Asselin, est-ce que cette critique, vous l'entendez? Vous dites attention, ou c'est hors de propos selon vous?
La culture américaine, que je connais un petit peu puisque j'ai une activité là-bas depuis une quinzaine d'années, n'est pas tout à fait celle de la culture française par rapport à ces questions-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'être anti-chrétien, anti-musulman, anti-quoi que ce soit. Il s'agit d'être anti-action qui va venir perturber l'organisation interne de l'entreprise. Et c'est contre ça qu'il faut avoir des éléments pour s'en défendre. Et alors, ça peut effectivement s'agir d'une religion qui veut s'imposer par le port d'un signe ostentatoire et finalement finir par l'imposer à tout le monde. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, au moment des élections présidentielles, veut faire passer les voix de son parti. Donc, il y a un moment ou un autre où l'entreprise, effectivement, doit être un lieu, si ça ne l'est pas, qui puisse faire fonctionner cette communauté humaine sous des règles communes où tout le monde s'y retrouve. Et puis, si ces règles communes sont définies et que des personnes ne s'y retrouvent pas, écoutez, qu'elles aillent voir d'autres entreprises où les règles sont différentes et qui leur conviennent. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas, entre guillemets, d'exclure les différences. Il s'agit tout simplement d'avoir un mode commun de fonctionnement qui permette tout simplement à cette communauté humaine, l'entreprise, de répondre aux besoins de ses clients, qui va lui permettre de lui commander, passer des commandes, faire des factures, rentrer de l'argent et payer tout le monde à la fin du mois. C'est pas plus compliqué
Alors,
que
Jean
ça.
Alors, Jean Glavany, sur ces critiques du New York Times, c'est vrai que ça intervient quand même, cette décision de justice, dans un contexte particulier. On est quand même après des élections aux Pays-Bas, avant des élections en France, dans un peu plus d'un mois, des élections en Allemagne, il y a eu l'élection de Donald Trump.
Oui, mais bon, comme le disait fort justement Monsieur Asselin, les États-Unis sont un système, une confédération d'États, un caractère communautariste qui ne repose pas sur les mêmes fondements que la République française et notre vivre ensemble et nos principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Donc, vérité en deçà de l'Atlantique, erreur en delà, je n'y insiste pas. J'ajoute que s'il y voit le règne d'une idéologie anti-musulmane, qu'est-ce qu'il a dû écrire sur les décrets de M. Trump sur l'immigration et la fermeture des frontières?
Mais sans doute aussi, l'un n'empêche pas l'autre, c'est le New York Times.
Aux ressortissants de pays arabes.
Le New York Times, c'est en général pas connu pour ses positions franchement radicales. C'est aussi une voix intéressante à écouter.
C'est toute la question d'une question majeure, mais dont on ne va pas forcément débattre ce soir. Anti-musulmans, c'est la question de l'islamophobie. Et il faut, c'est une question majeure parce que c'est un élément de confusion dans les esprits des républicains.
C'est
on
pour
doit
ça que
pouvoir
je vous pose
critiquer
la question.
Une religion quelle qu'elle soit, comme tout groupe philosophique, comme tout groupe politique, on doit pouvoir critiquer les musulmans. Ou l'islam, comme on peut critiquer le pape, la religion catholique, comme on peut critiquer le Front National, comme on peut critiquer le Parti communiste ou le Parti socialiste. On doit pouvoir... La France est un pays, depuis la philosophie des Lumières, où l'esprit critique est libre. Et donc, on doit pouvoir critiquer l'islam, sans pour autant être taxé d'être anti-musulman. Ça, c'est on voit bien les forces politiques et intégristes, d'ailleurs, qui consistent à détourner toute critique de l'islam en islamophobie. L'islamophobie a été un mot inventé par des milieux intégristes pour solidariser les musulmans de France contre la République qui voudrait les États. C'est pas vrai.
D'ailleurs, la République est des bonnes mères. Alors, pas très représentatif et sur les discriminations par rapport à la religion dans l'entreprise, c'est effectivement très mineur.
C'est très réduit. À l'embauche, sûrement, c'est plus vrai, mais et c'est pas sur la religion.
Dans la vie quotidienne de l'entreprise, c'était de l'ordre de quelques pourcents. C'était pas hyper représentatif. Merci beaucoup, messieurs, c'est déjà la fin. Merci à Jean Glavany, député socialiste des Hautes-Pyrénées. Merci à François Asselin, président de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises. On se retrouve demain. Merci également à Valentin Vaner, à Marjorie Bertin et à Franck Baudin.